Bonjour, c'est Lucie, c'est le début de l'émission d'information locale et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, l'association Sauvegarde de l'enfant à l'adulte 35 qui demande à Rennes Métropole des moyens à la hauteur de ses engagements. Interview pour annoncer la fête des blaireaux dimanche 14 mai, c'est un sujet très sérieux. Il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion du troisième épisode d'une série de reportages à la découverte de l'université du temps libre et puis une recommandation, c'est l'événement Jardins Enchantés qui a lieu vendredi et samedi. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Et comme chaque jour, on va commencer avec l'info que j'ai retenue pour vous. Là, la mobilisation ce jeudi 11 mai de l'association SEA 35, SEA pour sauvegarde de l'enfant à l'adulte. Sur les coups de 17h, heure de début de conseil métropolitain, des membres de l'association étaient présents devant l'hôtel de Rennes Métropole pour interpeller les élus. Alors les activités de cette association historique, elles s'organisent en plusieurs pôles. Il y a le pôle milieu ouvert, celui pour l'accueil familial et enfin un pôle consacré à la précarité et à l'insertion. C'est aussi cette association qui pilote Chorus, un dispositif d'hébergement d'urgence pour un public migrant. Ce constat, il a souvent été répété par les associations qui accompagnent les personnes exilées. SEA 35 le redit, le gouvernement n'assure pas sa responsabilité politique sur la question de l'hébergement, ce qui amène la ville de Rennes et Rennes Métropole à proposer des solutions d'accueil en complément. Dans sa stratégie métropolitaine des solidarités pour la période 2022-2027, la métropole défend sur le papier un accompagnement global des personnes exilées et, je cite, un engagement qui ne repose pas seulement sur de la mise à l'abri. Mais à côté de ce discours, la collectivité finance ce volet à taux constant depuis des années. Aujourd'hui, l'association Sauvegarde de l'enfant à l'adulte accompagne plus 86% de ménages et a vu doubler le nombre de personnes sur des situations souvent complexes. Elles sont aujourd'hui 150 personnes à être accompagnées. Résultat, 80 000 euros manquent pour financer cet accompagnement, malgré l'augmentation du financement du côté de la fondation Abbé Pierre. Cette somme, elle permettrait en fait à l'association de disposer de près de 4 salariés à temps plein pour accompagner les bénéficiaires. Et l'autre risque, alerte le SEA 35, c'est la fin de l'inconditionnalité d'accueil des personnes exilées, avec ce public des personnes seules et malades qui risquent de ne plus être accompagnées. C'est pourquoi le conseil d'administration de sauvegarde de l'enfant à l'adulte en Ille-et-Vilaine demande à Rennes Métropole des moyens à la hauteur de ses engagements. Allez, après cette info du jour, c'est l'heure d'une interview. Jérémy Evano, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes l'un des deux co-délégués d'Aspas Ille-et-Vilaine, 5 lettres qui désignent l'Association pour la protection des animaux sauvages. Et votre association, elle organise la fête des blaireaux dimanche prochain, dimanche 14 mai. Moi, au départ, le nom m'a fait sourire. Et en fait, le sujet, il est beaucoup plus sérieux qu'il n'y paraît. On va arriver au combat de cette association. À l'échelle nationale, on parle d'une asso qui a été créée en 1980, d'abord sous le nom d'Union des victimes de la chasse et de leur nuisance, avant de prendre le nom d'Aspas l'année suivante. L'antenne brétilienne ici en Ille-et-Vilaine, elle est plutôt récente. Ça a été créé dans quelles circonstances ?
Alors, j'ai créé la délégation Ille-et-Vilaine en 2019. En fait, j'ai proposé, moi, à l'Aspas national mes services en tant que bénévole. Et du coup, ils m'ont proposé de créer une délégation parce qu'il n'y en avait pas encore sur le département. Parce qu'en fait, c'est une association nationale et au niveau local, ce sont des délégations par un ou deux départements qui font vivre les actions sur le terrain. Donc en 2019, j'ai créé une délégation et puis depuis maintenant 4 ans, on s'étoffe au niveau des bénévoles et puis des actions qu'on arrive à mener sur le département.
Vous êtes combien dans les équipes aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est, une petite vingtaine de bénévoles actifs.
Et alors, qu'est-ce qui, vous, personnellement, Jérémy, vous a amené à vous engager dans ce secteur-là de la défense des animaux sauvages ? Vous aviez peut-être déjà un engagement associatif avant de lancer cette délégation de l'Association pour la protection des animaux sauvages ?
Alors, j'étais déjà dans d'autres associations naturalistes et ce qui m'a amené à l'ASPAS, c'est l'aspect juridique qui est assez spécifique dans son combat, enfin ses 40 ans de combat juridique, et aussi la spécificité que l'ASPAS est 100% indépendante, c'est-à-dire que elle ne touche aucune subvention publique, donc qui garantit une action non vérolée, on va dire.
Pour plus d'informations sur cette association donc indépendante, il y a le site internet aspas-nature.org où on découvre les différentes actions de l'association. Ça va, vous l'avez dit, de l'accompagnement juridique à l'achat de terrain pour constituer des réserves. Il y en a une dans le Trégor, si je ne dis pas de bêtises, ici en Bretagne. Et puis, vous menez aussi évidemment un travail de sensibilisation. Justement, sur le volet juridique, vous avez réussi ici en Ille-et-Vilaine au printemps dernier, en 2022, à faire annuler un arrêté qui concerne le déterrage des blaireaux. On arrive au sujet des blaireaux. On peut réexpliquer en quelques mots de quel arrêté il s'agissait et pourquoi vous avez demandé son annulation ?
Alors du coup, en fait, c'est une action qu'on a menée conjointement avec l'association AVES. En fait, il s'agit d'attaquer les arrêtés préfectoraux sur le déterrage des blaireaux, en fait, sur la période complémentaire. C'est une pratique normalement qui est réglementée de septembre jusqu'à janvier, et les préfectures donnent par arrêté le droit de déterrer à partir souvent du 15 mai. En Ille-et-Vilaine, c'est un petit peu plus tard, c'était au 1er juin. Et du coup, nous, on s'attaque avec le service juridique et avec d'autres associations, il n'y a pas que l'ASPAS sur le coup, pour faire annuler ces périodes complémentaires. Aujourd'hui, on se base sur des faits scientifiques, sur des données d'éthologues, pour prouver que déjà, d'une, c'est une chasse cruelle qui devrait être interdite, et d'autre part, au mois de mai, notamment, le sevrage des petits n'est pas fini. Donc, ce qui va à l'encontre de la Convention de Berne, où le blaireau est inscrit dans l'annexe 3.
L'année dernière, donc en 2022, suite à votre requête, le tribunal administratif de Rennes a finalement annulé l'arrêté préfectoral d'Ille-et-Vilaine qui autorisait une période complémentaire de vénerie sous terre, de déterrage des blaireaux du 1er juin au 14 septembre. Mais il y a eu une sorte de combine, il y a eu finalement un arrêté, une forme de doublon de la part de la préfecture.
Alors la préfecture, par le plus grand des hasards, peut-être, on ne sait pas, avait certainement prévu le coup que le premier arrêté serait cassé. Il avait pris un deuxième arrêté sur la même période, et en fait, malheureusement, quand on casse un arrêté, ça n'annule pas le deuxième. Donc, par une combine d'arrêtés comme ça, ils ont réussi, mais sur le fond, on a quand même réussi à annuler. Donc, il prouve bien que nos arguments sont pris en compte quand même par la justice, et que ça continue de faire jurisprudence avec de nombreuses victoires, parce qu'on en a encore obtenu la semaine dernière dans d'autres départements.
Ce qu'il faut dire, c'est que des périodes complémentaires comme celle-ci, en fait, elles sont accordées tous les ans. Là, il y a une consultation qui vient de se terminer dans le département de l'Ille-et-Vilaine sur ce sujet. La période complémentaire, a priori, ce serait du 1er juin au 14 septembre 2023 pour donc autoriser le déterrage des blaireaux. C'est l'occasion de redire en quoi consiste ce déterrage des blaireaux. Moi, j'ai découvert un monde. Vous parlez de cruauté. On peut expliquer en quelques mots comment est-ce qu'on fait sortir ces blaireaux de leur terrier ?
Alors du coup, le déterrage, c'est mené par des équipages, qu'on appelle des équipages de vénerie. C'est de la vénerie sous terre. Et en fait, on met des petits chiens aller dans les terriers, dans les galeries, qui vont acculer les blaireaux au fond des galeries. Et puis au son de l'aboiement, les équipages vont creuser pendant des heures. Ça peut durer très 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 longtemps. Et pendant tout ce temps-là, les blaireaux sont restaculés au fond des terriers. Et une fois que les équipages ont réussi à creuser pour atteindre les blaireaux, ils sont saisis à l'aide de grosses pinces sorties. Normalement, dans la charte, ils devraient être tués par arme blanche ou arme à feu. Et malheureusement, et beaucoup d'infiltrations dans le milieu montrent que soit ils sont donnés dévorés aux chiens ou tués à coups de pelle ou dans des conditions assez atroces. Donc c'est aussi ce côté vraiment cruel et c'est un loisir assez morbide et c'est pour ça aussi qu'on se bat contre ce déterrage.
Il faut préciser que donc la vénerie sous terre, le déterrage des blaireaux est autorisé donc par l'État au prétexte de dégâts qui seraient occasionnés par ce blaireau au même titre que les sangliers. En l'occurrence pour les blaireaux, on n'a pas de chiffre des dégâts, mais on parle d'une pratique courante là pour le territoire de l'Ille-et-Vilaine. Ce sont quoi chaque année des centaines de blaireaux qui sont déterrés de cette façon?
Alors sur l'Ille-et-Vilaine, si on reprend les chiffres 2015-2020, c'est plus de 1000 blaireaux qui ont été déterrés, avec un pic, je crois, en 2015, où c'était plus de 300 blaireaux. Parce qu'en fait, le blaireau étant un animal nocturne, il est plus chassé en déterrage qu'en chasse à tir. Et aujourd'hui, on l'accuse de dégâts aux cultures. Aujourd'hui, il faut savoir que le dégât aux cultures, quand c'est le sanglier qui le fait, il doit être indemnisé par les fédérations de chasse. Ce n'est pas le cas pour le blaireau. Donc des fois, on peut s'interroger. Et aujourd'hui, comme ce sont les fédérations de chasse qui donnent les chiffres sur les dégâts, on peut s'interroger sur la véracité de ces données.
Donc on arrive à ce sujet des blaireaux et sur lequel vous cherchez à sensibiliser, notamment à travers l'événement que vous organisez le week-end prochain. On ajoute qu'il y a d'autres acteurs hein, qui sont opposés à ce déterrage des blaireaux. Je pense au groupe Mammalogique Breton qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, qui en plus de ça effectue des recensements de cette espèce tous les ans. Ça se passe à chaque fois au mois de mars. Là, en mars 2023, j'ai jeté un coup d'œil à leur atlas qu'on peut retrouver en ligne. Ce sont 1640 blaireaux européens qui ont été observés sur le territoire breton. On est plutôt dans le vert en termes de population de cet animal. On ne parle pas d'une espèce en danger, ce qui n'empêche pas d'être choqué par ces méthodes de déterrage.
Aujourd'hui, en fait, les populations, alors comme le GMB et d'autres associations en France font des recensements, mais il n'y a pas de protocole national de mis en place. Aujourd'hui, les préfectures, elles autorisent de tuer des animaux sans connaître l'état des populations et les réels effectifs. Donc aujourd'hui, la préfecture d'Ille-et-Vilaine se base sur des données qui ont été faites sur les ICA lièvres, donc c'est les indices kilométriques d'abondance qu'ils font pour le lièvre, et ils comptent aussi des autres animaux qui croisent pendant ces recensements-là. Mais ce n'est pas une donnée scientifique qui est validée en fait.
On arrive à l'événement qui nous intéresse et qu'on annonce pour le week-end prochain. La fête des blaireaux, c'est donc dimanche 14 mai du côté de Tinténiac à 20 minutes au nord de Rennes, une vingtaine de minutes au nord de Rennes. Comment est-ce qu'on se dit, tiens, on va organiser une fête des blaireaux? On précise que c'est pas la première édition, c'est la deuxième édition de l'événement cette année. D'où vous est venue cette idée?
Alors du coup, en fait, depuis la création de la délégation, on a décidé de rester vraiment sur une action blaireau, d'en faire notre action phare, parce qu'aujourd'hui, au niveau national, il y a d'autres actions qui sont menées, et en 2023, sur les grands prédateurs notamment. Et en 2022, l'association a décidé de créer la Journée mondiale des blaireaux, qui est le 15 mai, en référence à la date d'ouverture de cette période complémentaire de déterrage. Alors nous, cette année, on a choisi le 14 parce que ça tombait un dimanche et on s'est dit pourquoi pas faire une grande fête et on appellera la fête des blaireaux. On trouvait que ça fait sourire beaucoup les gens et ça interpelle par le nom de l'événement. Et du coup, on s'est dit comment interpeller le plus grand nombre d'en faire cette cruauté, de cette chasse cruelle, un événement qui peut être festif et interpeller le grand public pour la cause de cet animal en fait qu'on ne connaît pas, qui est vraiment méconnu. Donc voilà, Tinténiac, la ville de Tinténiac nous a autorisé à organiser cet événement dans une de leurs salles. Et du coup, on fait venir Virginie Boyaval l'après-midi. Ça va être un peu de la conférence phare. Virginie Boyaval, qui est fondatrice de l'association Mélès et qui a un centre de soins pour blaireautins. Donc qui viendra nous parler du blaireau et puis qui nous fera une conférence sur les premiers soins à porter si on trouve un blaireau blessé ou un blaireautin orphelin. C'est vraiment tout public, dès l'âge de 6 ans, et les enfants pourront apprendre en manipulant les premiers gestes de secours.
Ça, c'est pour la rencontre proposée donc de 14h à 16h dimanche 14 mai avec donc cette éthologue là que vous venez de présenter qui vient de l'Est de la France, je crois. Une rencontre qui sera suivie d'une conférence sur le combat juridique de votre association, l'Association pour la protection des animaux sauvages. Ça, c'est à 16h15 en compagnie d'une juriste qui s'appelle Ariane Ambrosini. Toute la journée, vous proposez aussi plutôt des propositions culturelles, j'imagine, aussi pour faire venir les gens et mélanger les publics.
Alors, le matin, il y a la compagnie des Embriers qui vient nous jouer son spectacle Solvegnose. Donc, ce sont des messagers, c'est une compagnie qui passe des messages de spectacle en spectacle. C'est une troupe itinérante et pour l'occasion, ils nous feront écrire des messages pour les prochains sur les blaireaux. Donc ça, c'est en ouverture du premier spectacle à 10h30. Ensuite, il y a la Batucada Bloco Loco qui animera un petit peu, parce qu'on voulait un peu des festifs. Du coup, la Batucada viendra jouer pendant une heure avant de manger.
Avant de manger, puisqu'il y a un repas qui est proposé à partir de 12h30.
À partir de 12h30, il y a le traiteur aux fenouilles qui nous fait un repas qui nous proposera la restauration sur place. Donc c'est de la cuisine végétale qui s'adresse à tout le monde.
On le redit, cette fête des blaireaux, donc ça se passe dimanche 14 mai de 9h30 jusqu'à 18h. Rendez-vous à l'espace du Guéclin de Tintaignac. On est à une vingtaine de minutes au nord de Rennes. Et lors de cette journée, le public pourra aussi découvrir des expositions, des ateliers enfants seront proposés. Puis il y a des stands d'information, plein de choses à voir.
Exactement, il y aura une exposition d'un photographe, Stéphane Jousset, qui nous a fait des super images de blaireaux. Il y a l'exposition de l'association Blaireaux et Sauvages qui se trouve aussi dans l'Est, où Yann Le Bessel se bat pour le blaireau, donc il nous prête une exposition pour l'occasion. Et on fait en même temps des ateliers enfants où ils pourront faire des dessins, peindre des figurines, créer des masques de blaireaux. Voilà, parce qu'on veut vraiment aussi sensibiliser ce jeune public. C'est eux qui font changer les choses à l'avenir.
Et pour rendre visible un animal qu'on croise peu dans son quotidien, et j'imagine que voilà, mieux on connaît et mieux on protège ensuite, je vous représente Jérémy Evano. Vous êtes l'un des deux co-délégués d'Aspas Ille-et-Vilaine, l'association pour la protection des animaux sauvages qui organise la fête des blaireaux dimanche prochain du côté de Tintaignac. Pour retrouver tout le programme, il y a le site internet national aspas-nature.org et puis vous avez aussi une page Facebook pour l'antenne départementale d'Ille-et-Vilaine. Et je ne l'ai pas dit, mais je l'ajoute, vous n'êtes pas seul sur ce combat, puisque la journée mondiale du 15 mai, journée mondiale des blaireaux, est soutenue par de nombreux partenaires associatifs comme la LPO, Ligue de protection des oiseaux, qui protège plus que les oiseaux, ou encore France Nature Environnement. Merci beaucoup.
Merci à vous. My house is burning and I'm standing at the sink. I love you and you don't love me. And I'm so caught up with all my hygiene. The wax is curling from the white heat on the walls. And adding curtains, sitting in my rollers, painting my toenails, trying, trying. Cause I'm an A-bomb with a cataracted glare. I wanna fuck you up without having to redo my hair. And I'm so neurotic but I'm taking classes now. Cause I wanna be like you. And you're gonna have to show me how you do it, Mr. Girl. You know the secrets of our monthly subscription. Show me, show me. I'm gonna surprise you and never surprise you. It's here on your birthday, I wanna impress you. I'll buy you a locket. Shiny slot machine. Too many hours
track habit, silly as it seems. My husband's one track mind, you don't pay attention to my dreams. Being really hard in the evening, come and take my picture, show me, show me, show me. And I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying not to think about it. It's only there when I think about it.
White Heat par Hitman à l'instant sur Canal B. C'est une nouveauté musicale qui a été sélectionnée rien que pour vous par Yann, notre programmateur ici à la radio. Et alors Hitman, c'est un groupe composé d'anciens membres de The Jax, une formation indie punk qui vient de Bristol et qui a été marquée en 2019 par le décès de son bassiste. Là, il s'agit d'un nouveau départ avec un nouveau nom et un premier single dévoilé le 28 avril dernier, album à venir si on écoute leurs réseaux sociaux. Vous écoutez Canal B sur le 94.0, vous êtes peut-être moderne et connecté en ligne sur notre site canalb.fr. On passe tout de suite au reportage du jour. Il s'agit d'une rediffusion d'un contenu qui est passé dans cette même émission le 19 avril dernier. On va continuer avec un reportage, le troisième et dernier épisode d'une série à la découverte de l'Université du temps libre du Pays de Rennes. Une mission pour cette association, c'est de proposer à ceux qui ont du temps libre, essentiellement des retraités, d'entretenir leur patrimoine intellectuel, moral et aussi physique. La structure, elle fêtera ses 40 ans en 2025 et elle fait partie des 48 universités du temps libre bretonnes. Dans cette série, je vous fais écouter les voix des adhérents, des bénévoles, aussi des enseignants. Aujourd'hui, on part chez Denis Pépin pour un atelier de jardinage biologique et écologique. Programme complet des conférences, cours, ateliers et sorties à retrouver en ligne sur utlrennes.fr.
Petite, on commence par quelque chose que Didier a apporté. Oh, merci, Didier. Donc, qui saura ce que c'est que ces petits, ces petits sushis là,
les amuse-gueules là.
Les petits amuse-gueules blancs là.
D'apéro.
Il faut peut-être mieux cultiver le safran.
Jaune. Qui sont très fins et très étroits.
Les mille pains.
Non.
Très méchant, qui mange les racines.
Oui.
Oui, ça mange les racines, oui. C'est le topin. Voilà, c'est la larve de topin.
Qui a été prononcé il y a...
Oui. On l'appelle également verfil de fer en raison de sa taille étroite et allongée.
Je suis Jean-Louis Allier, je suis le président de l'Université du temps libre du Pays de Rennes depuis 3 ans maintenant.
Je suis Brigitte Loher, je suis vice-présidente de l'Université du temps libre depuis, moi, 4 ans.
Donc il y a eu un effet de la crise sanitaire sur le nombre des adhérents qui avaient connu une baisse parce que certains ont perdu l'habitude, puis il y a eu une période d'arrêt des activités. Là, on est en 2023. Comment vous décririez la dynamique? Les gens reviennent?
Absolument. Nous étions descendus, si je puis dire ainsi, à 1600 adhérents, pour faire au plus court, en 2021. En 2022, nous sommes remontés à 1750. Et là, nous arrivons cette année à 1860. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement de retour vers ce genre d'activité. Sachant que, pour l'instant, nous n'avons pas retrouvé notre niveau d'avant la pandémie, qui était de 2200 adhérents pour la meilleure année.
Les adhérents, donc beaucoup de femmes, on imagine originaire du pays de Rennes, essentiellement un public de personnes retraitées. Est-ce que vous savez si ce sont beaucoup de gens qui ont déjà eu un accès à la culture, à des études, etc. Est-ce que certains peut-être sentent un frein à rejoindre l'université du temps libre parce qu'ils n'ont pas fait d'études avant.
Il n'y a pas d'obligation d'avoir des diplômes de l'enseignement supérieur pour venir nous voir. D'ailleurs, nous ne délivrons aucun diplôme. Et la population qui est là est certes des gens qui ont fait des études, mais ces études sont loin. Et ce qu'ils viennent chercher, en fait, c'est une réactivation de leurs connaissances qu'ils avaient eues lors de leur cursus scolaire et universitaire. Alors, c'est peut-être le nom d'université qui peut, à la limite, peut-être en faire... craindre certains sur le niveau de ce qui est enseigné. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous enseignons ou ce que nous faisons nécessite un très haut niveau de savoir.
Peut-être dire qu'il y a donc sur certains cours des niveaux pour essayer de s'adapter aux différents publics qui viennent à l'UTL ?
Bien sûr, il y a des niveaux, notamment en ce qui concerne les cours de langue, puisque des personnes... comme moi, par exemple, n'ont pas fait d'anglais depuis le bac. D'autres ont continué à pratiquer. Et donc là, on retrouve, effectivement, on a en cours de langue, on a 6 à 7 niveaux, avec des plus, des moins d'ailleurs. Mais moi, je m'aperçois que les personnes ont surtout besoin de se retrouver et ont plaisir. C'est ce que encore une participante là au cours d'espagnol m'a redit la semaine dernière. Moi, j'ai plaisir à venir chaque semaine à l'UTL parce que pour des raisons personnelles, elle a une vie qui n'est pas très facile et au moins c'est une bouffée d'oxygène. Elle fait les langues plus les randonnées. Y a des personnes qui ont 1, 2, 3 activités. Dans les autres activités, il n'y a pas vraiment de niveau, parce que souvent les intervenants d'abord établissent un programme. Donc, quand on vient choisir une activité, on connaît le programme. Moi, je vois notamment en atelier Histoire de l'art, c'est la découverte et l'approche d'un peintre, de ses tableaux. Souvent, le thème est choisi en fonction des expositions qui sont organisées dans les grands musées nationaux, notamment principalement à Paris. Donc, je crois que là, il n'y a pas un problème de culture au niveau culture, c'est un problème de sensibilité. Si on aime la peinture, par exemple, pareil, si on aime lire, les études littéraires, à chaque intervention, la personne nous a donné un programme. On sait que telle séance, on va étudier, Madame Bovary. On lit, si l'on veut, le livre avant, elle va tout nous le décrypter, elle va même nous envoyer un PowerPoint, et après, moi, très souvent, je relis le livre et j'apprends à le lire d'une autre façon.
Ça doit ramener à des souvenirs de jeunesse, ou en tout cas de l'école, de l'université, doit replonger dans des façons de...
Mais tout le monde n'a pas fait des études à l'université, parce qu'on a un public très varié. On a des infirmières, on a des secrétaires qui étaient secrétaires accueil de banque, on a des médecins, on a des architectes, on a vraiment, dans les adhérents, une arrivée de professions très, très diverses.
Est-ce qu'on peut dire un mot sur les tarifs et les choix que vous faites pour essayer de rendre ces rendez-vous accessibles à un public le plus large ?
Alors actuellement, l'adhésion à l'UTL du Pays de Rennes est à 55 euros par an et elle donne droit à un accès libre et gratuit à plus de 60 conférences par an. Et à partir de là, si les personnes souhaitent s'inscrire à d'autres activités, évidemment, nous avons des tarifs qui sont en fonction des locations que nous-mêmes sommes amenés à faire auprès des prestataires qui nous fournissent le service. Je pense à la piscine, je pense ne serait-ce qu'aux salles que nous louons de manière fréquente à la Maison des associations. Je pense à l'amphithéâtre que l'on utilise, à l'auditorium que l'on utilise de manière régulière, 60 fois par an, hein, ou 50 fois par an, et qui rentre évidemment dans nos charges et dans notre tarif.
Pour donner un exemple de tarif d'activité, eh bien, je vous donne celui du cours dans lequel je vous emmène dans un instant, l'atelier de jardinage biologique et écologique. Il faut là compter 89 euros l'année à raison d'un cours par mois.
Nous sommes qu'une espèce parmi les 300 000 espèces qui existent sur la planète. Enfin, on est juste une espèce. On va pas dire tout pour nous, enfin en permanence, quoi. On peut voir aussi les autres. Alors par contre, il y a un truc là qui franchement qu'il faut absolument éviter. Ce sont les chenilles qui sont sur les arbres fruitiers au moment où les bourgeons sortent. Au moment où les jeunes feuilles sortent.
Bonjour, là, je suis Denis Pépin, jardinier depuis déjà pas mal de temps. J'ai une formation en écologie et en agronomie à l'agro de Rennes. Et puis je fais des cours de jardinage biologique, des conférences, des stages, des visites de jardin déjà depuis plus d'une dizaine d'années.
Est-ce que c'était déjà dans votre vie avant, on va dire, le temps de la retraite ou
Alors j'ai commencé ça bien avant, oui, parce qu'à un moment donné, j'avais une double activité. Chargé de mission environnement pour une collectivité territoriale et en même temps une passion jardin qui est devenue de plus en plus dévorante, voilà, et qui a pris le dessus.
Depuis quand est-ce que vous donnez des cours dans le cadre de l'Université du Temps Libre ?
Alors nous donnons des cours avec l'UTL depuis 2014. Des cours de jardinage biologique et écologique. Alors il y a eu d'abord une première année, puis ensuite un intérêt des gens pour continuer. Donc on a fait une deuxième année dite perfectionnement. Voilà, c'est bien et j'espère que ça va continuer parce que c'est très sympa.
Ça a lieu à quel rythme ?
Alors c'est une fois par mois, en général la première semaine du mois, mais on s'adapte en fonction des vacances scolaires.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a donc un espace chez vous, à votre domicile, qui est consacré à ces cours-là, devant lequel on se trouve. On peut peut-être le décrire.
Oui, alors nous faisons les cours de jardinage non pas en salle, mais dans notre jardin, le plus possible. Alors il y a des parties, des fois, en vidéoprojecteur qui se font pour partie dans une salle. Mais donc c'est notre jardin personnel, familial. Alors on a une très très grande diversité de légumes. Nous, dans notre potager familial, on produit à peu près 700-750 kg de légumes par an sur une petite surface de 100 mètres carrés, auquel on a ajouté 50 mètres carrés de potager pour justement que les gens puissent faire un petit peu avec les cours, les stages de jardinage, pour pouvoir avoir plus de place pour la démonstration. Donc c'est dans un grand jardin entouré de haies avec des arbres d'ornement, fruitiers, pelouses, potagers, fleurs.
Votre spécialité, c'est le jardinage écologique. Peut-être commencer par vous demander si le public que vous recevez dans les cours est familier de ce jardinage écologique.
Alors non, il ne l'est pas. Par contre, ce qu'il sait maintenant, c'est que depuis 2017, il n'y a plus le droit d'utiliser des pesticides chimiques de synthèse. Donc moi, ça a toujours été de toute façon, dès le départ, du jardinage biologique. J'ai rajouté le mot écologique parce que, en fin de compte, on a aussi une démarche de dépenser le moins de ressources, d'eau, d'énergie, avoir toujours un œil sur notre impact sur la planète. Alors on va dire aujourd'hui permaculture, moi je préfère rester au mot jardinage biologique et écologique. Donc on recycle tous nos déchets par exemple, tous les déchets organiques pour le paillage et le compostage. On fait attention à économiser l'eau, on fait attention à dépenser le moins d'énergie fossile. On fait tout pour accueillir la biodiversité. On a eu d'ailleurs un prix pour ça par rapport à la préoccupation biodiversité et climat. Donc voilà, c'est ça le mot écologique.
À raison d'un cours par mois, comment est-ce que vous organisez tout au long de l'année vos cours, peut-être au fil des saisons, forcément, je pense, comme on est dans le jardin ?
Alors les cours sont organisés par mois en fonction des saisons. Alors il y a des périodes d'hiver où il y a moins à faire dans le potager de façon active. Il y a plein de choses à faire pour autant. Et donc j'en profite pour parler de la biodiversité. C'est le bon moment aussi pour mettre en place des nichoirs pour les insectes, pour les oiseaux. Donc les cours, ils sont organisés en fonction des saisons. Et puis ce n'est pas pour, en tout cas la première année, exclusivement le potager, même si ça domine. Il y a aussi la partie jardin d'ornement, la partie pelouse, fleurs, hein, car le jardinage biologique ça s'applique aussi à la totalité du jardin, quoi.
donner des cours donc de jardinage écologique et biologique à un public qui est essentiellement composé de retraités, mais c'est pas uniquement le cas, hein. Il y a aussi des gens qui ont du temps libre sans être retraités. Est-ce que ça implique de mener le cours d'une façon particulière ?
Alors, au début, je faisais les cours un peu comme je le faisais avec des comités d'entreprise à côté, sur une heure et demie sur le temps de midi, c'était tambour battant. Et puis je me suis rendu compte que non, les gens à l'UTL, ils veulent prendre leur temps. Ils viennent ici autant pour le plaisir d'être dans un beau jardin, de discuter. Et donc, ce que je fais, je faisais en une heure et demie avant, je fais en deux heures et demie, et c'est le rythme qui convient. Faut pas se bousculer, et surtout faut être très très ouvert à toutes les questions qui viennent spontanément. Il y a un intérêt pour tel truc, c'est pas grave, on dérive un petit peu, et les gens viennent là pour avoir des réponses et prendre du bon temps.
Là, on se retrouve, on est au début du mois d'avril. Quel va être le sujet du cours qui va bientôt commencer ?
Alors c'est le printemps, il fait beau, il pleut, la chaleur est là, donc les herbes dites indésirables s'installent et repoussent. Donc le cours est consacré à la maîtrise des herbes indésirables et au désherbage. Alors ça implique de les reconnaître, et puis toutes les techniques qu'on peut avoir pour les maîtriser, mais sans chercher absolument à les éradiquer aussi. C'est simplement rester maître du jeu en accueillant celles qui sont sympas et en faisant quand même un petit peu la guerre à celles qui sont envahissantes, il faut le reconnaître.
J'en ai un autre.
Voilà.
Regardez là. Je suis pas venu avec. Hein. Ah, il est en train de se planter dans la
pomme. Regardez, elle est là comme ça. Et elle essaye d'avancer là. On appelle ça une chenille arpenteuse. Donc elle vient de sortir de l'œuf. À ce stade-là, elle va commencer à faire des grignotages de feuilles et de fleurs. C'est ça le plus grave encore. Ça va pas faire encore de gros dégâts, mais plus elle va grandir, et ça peut faire 4 cm de longueur. Hein. Plus elle va grandir, plus elle va manger de feuillage, et toutes vos feuilles seront complètement trouées.
Comment est-ce qu'on peut vous présenter, peut-être votre prénom, qui vous êtes ?
Philippe.
Vous venez d'où ?
De Champy.
Est-ce que je peux vous demander votre âge ?
64 ans.
Est-ce que c'est une première participation aux activités de l'Université du Temps Libre ?
Oui.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire ?
Parce que je connaissais les cours de jardinage, on m'en avait parlé, et que j'avais envie de les faire aussi, parce que je voulais améliorer ma technique. Je veux devenir feignant en jardinage.
Vous aviez donc déjà un bagage en jardinage
Bon, j'ai toujours jardiné un petit peu, mais ici la terre était très très mauvaise, donc c'était compliqué. Et donc là, il fallait commencer par améliorer la terre, puis avoir les meilleures techniques pour que ça marche facilement.
Qu'est-ce qui vous a vraiment été utile dans l'année qui n'est pas tout à fait finie mais...
Le compostage, le paillage, pas marcher sur la terre, la taille des arbres, tout ça.
Vous appliquez ça chez vous ?
Oui.
Et il ressemble à quoi votre jardin
300 mètres carrés, c'est plus petit qu'ici. Quoi, mais...
Et vous y faites pousser quoi ?
Des haricots, des petits pois, des patates, des fleurs, des radis, des salades et des épinards.
Et des tomates dans la serre aussi.
Je peux vous demander votre prénom ?
Isabelle.
Et votre âge ?
65.
Et la question que je pose à tous les adhérents que je rencontre, c'est de leur demander s'ils ont toujours eu ce désir d'apprendre des nouvelles choses.
J'ai toujours eu plaisir à apprendre, depuis que je suis tout petit. À l'école, au travail, partout.
Là, on a plus de temps maintenant qu'on est en retraite.
Dominique, j'ai 63 ans, je suis retraité. J'ai 3 enfants et 5 petits-enfants.
Vous faisiez quoi dans la vie avant d'être en retraite ?
J'étais médecin.
Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire à ce cours-là ?
Le changement climatique, d'une part, et puis la volonté de pouvoir transmettre ce que j'aurais pu apprendre à mes petits-enfants qui auront certainement besoin de développer les jardins biologiques quand ils seront adultes. Ouais.
Vous aviez déjà des connaissances en jardinage avant d'arriver ?
Non, aucune, non.
Novice,
oui. Et là, c'est un apprentissage raisonné, très agréable, avec un potager merveilleux. Donc, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire que j'ai un petit jardin chez moi, donc du coup, je mets en pratique. Effectivement, j'ai construit un petit jardin potager qui fait seulement 6 mètres carrés. Mais...
Un carré, quoi.
Voilà, un petit carré. Mais j'apprends petit à petit, effectivement. Et j'ai appris à protéger le sol et à lui permettre de se nourrir avec des herbes coupées et des feuilles mortes. Parce qu'auparavant, moi, je désherbais au maximum, je laissais la terre nue, et c'était une grosse erreur, donc je ne savais rien faire. Je suis très content à la fois de comprendre ce qu'il faut faire, et puis de le mettre en pratique.
Et vous y faites pousser quoi dans votre petit carré ?
Alors, des aromates, et puis des poivrons, des tomates, et des fraises.
Ok. C'est la seule activité de Lutèle à laquelle vous participez ?
Non, je participe aussi à l'histoire de l'art, avec Madame Duroc.
Cet esprit curieux, puis cette envie d'apprendre des nouvelles choses, c'était déjà présent dans votre vie avant la retraite ?
Non, parce que j'étais tellement occupé que je n'avais aucune minute à moi, et donc c'est au contraire depuis la retraite que je fais beaucoup d'activités pour m'enrichir, voilà, et c'est un grand bonheur.
Vous en avez d'autres, des activités à part l'UTL ?
Oui, de l'anglais, du sport, je m'occupe de petits-enfants, et je m'occupe d'une association aussi qui prend en charge des personnes migrantes à la rue.
Est-ce que sur un cours comme ça, il y a aussi un intérêt peut-être un peu social ? Oui, vous devez bien vous connaître avec ce groupe ?
Oui, tout à fait, comme on y va tous les mois, là, depuis le début de l'année, on commence à se connaître, et puis on participera certainement au cours l'année prochaine, la deuxième année, donc ça permet aussi des contacts et puis des échanges, hein, de plantes, de semences, et de différentes choses, oui, et puis effectivement de se faire des amis éventuellement.
Alors, je m'appelle Annick, je travaille pour le ministère de l'écologie, et j'ai toujours été passionnée de jardinage, mais sans jamais prendre le temps de me former. Et donc, je fais du jardinage comme ça, pour le plaisir, sans me poser de questions déjà depuis 30 ans. Et donc, je viens à ce cours pour la première fois. C'est la première fois que je me forme au sujet. Je me rends compte de l'immensité de mon ignorance et des erreurs que je n'ai cessé de commettre pendant 30 ans. Et je suis ravie d'être ici, je prends des demi-journées de congé exprès pour venir. Et donc c'est super, hein. On apprend plein de choses, on met en application immédiatement le week-end suivant dans le jardin.
Vous êtes rennaise, vous avez donc un petit jardin peut-être ou un grand jardin ?
Alors on a un petit jardin ici à Rennes qui fait 300 mètres carrés. Et on a également, en fait, on a une petite maison au bord de la mer qui a en revanche un très grand terrain de 2000 m2. Et donc là-bas, on ne peut pas faire de potager parce qu'on n'y est pas tout le temps. Mais en revanche, on a plein de fleurs, d'arbres, d'arbustes, de fruitiers, de petits fruitiers aussi.
Vous faites partie des élèves là, qui ne sont pas à la retraite. Il y a une grande partie de retraités et puis d'autres gens qui ont du temps libre à occuper. Est-ce que du coup, c'est dur de trouver ce temps là dans votre quotidien pour apprendre des choses?
Ah oui, c'est compliqué. Parce qu'en plus, j'ai une vie professionnelle qui est un peu compliquée parce qu'en ce moment, je suis en poste à Bordeaux. Donc, j'organise tout mon agenda pour être en capacité de participer à ce stage de jardinage que j'ai quand même loupé deux fois, je crois, depuis l'été dernier. Mais vraiment, je fais tout pour venir. Ouais.
Alors, il faut venir avec son kawaii, là, en fait. Tout le monde, il n'y a que moi qui n'ai pas de kawaii.
Ouais, c'est-à-dire que, en général, quand même, on a assez froid parce qu'on passe toute l'après-midi dehors. On reste en place, en plus. Il
faut être équipé.
Donc, on est... Ah oui, donc on s'est fait avoir la première fois, mais là, maintenant, c'est...
Là voilà, en voilà une là. Attention, elle risque de manger son doigt là.
C'est une comme ça que j'avais.
C'est une carnivore celle-là.
Ah oui, non, mais alors celle-ci c'est une spéciale Didier. Didier, c'est bizarre. Ouais. Parce que assortie avec la manche là.
Juste le temps de vivre.
Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rend con. Oh, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'eau qu'elle en a marre d'être bouillue. C'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne. C'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème.
L'eau de la Nantaise Jeanne Chéral, c'est un morceau qu'on retrouve sur l'album du même nom qui est sorti en 2006 sur le label Tôt ou Tard. Le troisième des six disques sortis par cet artiste, réalisé là par Albin de la Simone. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, et comme chaque jour, on va poursuivre et terminer avec une recommandation. À chaque fois en fin d'émission, je vous recommande des choses parfois à vous mettre dans les oreilles, à vivre ou à lire. Là, il s'agit d'un événement qui se déroule sur deux jours et on croise les doigts pour que le soleil revienne. Je vais prêcher pour ma paroisse et je vous conseille d'aller faire un tour à Vezin-le-Coquet, à 10 minutes de Rennes, qui organise sa 4e édition des Jardins Enchantés. Un événement gratuit sur deux jours, vendredi 12 et samedi 13 mai, et qui se veut être un temps de réflexion, d'échange et de rêverie autour de la nature. Pour cette édition 2023, c'est le thème Miroir du monde qui a été choisi. Au programme vendredi pour commencer, la médiathèque accueille plusieurs propositions. Une projection de moyen métrage sur les jardins de Monet à 16h, un atelier jardinage à 16h30 et la présentation de l'expo Miroir du monde avec le club photo vidéo à partir de 17h. La soirée sera marquée par une balade causerie autour des plantes avec Yves Darigaud. Il est ingénieur agronome et auteur. Rendez-vous pour le rencontrer à 18h au parc de Boiré. Une balade qui sera suivie à 19h d'un intermède musical kurde qui se déroulera cette fois à la salle du conseil municipal. On passe au samedi, c'est une journée qui est chargée. Tout le programme, il est à retrouver dès maintenant en ligne sur le site ville-vezin-le-coquet.fr. Pour vous donner envie, on peut citer le pique-nique musical de midi à 14h. Tout se passe dans le parc de Boiré. Tout l'après-midi, il y aura des stands Village du Monde à découvrir, des balades, ateliers ou encore siestes sonores. Et puis, trois spectacles à voir en soirée. Les valises à Comte Tzigane à 17h. Puis, direction la salle des fêtes pour des danses régionales de France à 18h et en clôture un concert de Mata Hari Afrobeat dès 20h.
Privés de guitare, ils ont utilisé des potelets. Privés de violon, ils ont utilisé leurs chaussures, leurs mains, leurs pieds.
L'Arène, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.